France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le fabuleux destin de Pauline Viardot, Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce sixième épisode du fabuleux destin de Pauline Viardot. Aujourd'hui, direction le 48 rue de Douai à Paris, où se tient le salon musical des Viardot, célèbre rendez-vous du Paris romantique. On y croisera du beau monde, peintre, compositeur, écrivain et homme politique. Et après les mondanités, un peu d'intimité, nous ferons plus ample connaissance avec la famille de Pauline Viardot, en particulier sa fille aînée, Louise, et sa mère, la fidèle Mamita. Et en guest star, comme à chaque fois dans le rôle de Pauline, vous entendrez la voix de la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac. Pauline, les années 1840 ont été tumultueuses. Elle a passé son temps à sillonner l'Europe, de scène en scène, récoltant triomphe sur triomphe. Heureusement, la décennie 1850 va être plus calme. Pauline va mettre au monde trois enfants, après la petite Louise, et va enfin prendre un peu de temps pour sa vie de famille. Les tournées à l'étranger vont se poursuivre, mais elles seront moins longues et moins nombreuses. En France, depuis 1852, on vit sous l'empire de Napoléon III. Pour les Viardot, fervents républicains, le contexte politique est peu favorable. Résultat, Pauline n'est à nouveau plus la bienvenue sur les scènes d'opéra parisiennes. Elle se contente de chanter en récital, en public bien sûr, mais aussi en privé. Son salon de la rue de Douai va être un excellent moyen de garder contact avec les sphères artistiques. Partout où elle va, Pauline est entourée de sa famille et de ses amis. Ensemble, on s'amuse, on débat, on parle littérature, politique et surtout, on joue de la musique. L'été, on se réunit à Courtavenelle, le charmant château de style Renaissance des Viardot à la campagne. On y croise entre autres l'écrivain russe Ivan Tourguenieff, les compositeurs Charles Gounod et Hector Berlioz, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Et l'hiver, c'est au 48 rue de Douai à Paris, que l'élite intellectuelle et artistique se retrouve. En 1848, les Viardot achètent un terrain pour construire un hôtel particulier. Pauline et Louis connaissent déjà le quartier, alors appelé le Nouveau Paris. Avant, ils habitaient près du Square d'Orléans, où se trouvait le pied-à-terre parisien de Georges Sand et Frédéric Chopin. La rue de Douai se situe à seulement 15 minutes de marche. Mais pour l'époque, cela paraît un peu excentré. La preuve, quand Pauline mentionne l'adresse pour la première fois à Georges Sand, celle-ci ignore même le nom de la rue. Il ne faut pas non plus exagérer. Les Viardot sont quasiment voisins des peintres Eugène Delacroix et Harry Schaeffer. Le quartier, situé à deux pas de la barrière blanche, est tranquille. On y cultive des artichauts. Au début, Georges Sand trouve la maison des Viardot peu confortable. Mais comme elle l'écrit à Pauline, après les derniers rebondissements politiques, les prix de l'immobilier ont chuté et ils ont bien fait d'acheter. Chez les Viardot, on peut admirer une collection de tableaux remarquables, parmi lesquels un Rembrandt ou un Velázquez. Mais la pièce maîtresse de l'hôtel des Viardot, c'est un superbe orgue Cavaille-École acquis en 1851. Camille Saint-Saëns, habituée des soirées chez les Viardot, se souvient. Des salons consacrés à la musique vocale et profane, on descendait par quelques marches à une galerie de précieux tableaux aboutissant à un orgue exquis. Là était le temple de la musique sacrée. Là résonnaient les airs des oratorios de Handel et de Mendelssohn, que la cantatrice interprétait à Londres durant la saison et ne pouvait faire entendre à Paris dans les concerts rebelles à ses vastes compositions.
Alles wohl gemacht.
jeudi soir des Viardot est le rendez-vous à la mode du Paris artistique de 1850. On y croise la crème de la crème. Des musiciens, évidemment, Rossini, Saint-Saëns, Berlioz, des écrivains, Georges Sand, Gustave Flaubert, mais aussi des peintres, Eugène Delacroix et Harry Schaeffer en tête. Ce dernier, peintre d'origine hollandaise, grand ami de Louis Viardot, est complètement sous le charme de Pauline. Quand il la rencontre vers 1839, alors qu'elle est encore toute jeune, il la trouve terriblement laide. Mais déjà, il sait qu'il va en tomber amoureux. Et c'est peu dire. Pendant près de 20 ans, il l'adore en secret. Pauline, elle, voit Schaeffer comme un ami et éprouve les mêmes sentiments qu'elle a pour lui. Ce sont des êtres précieux, toujours là pour veiller sur elle. On doit à Schaeffer l'un des plus célèbres portraits de Pauline Viardot, peint en 1840. Malgré ses traits ingrats, elle apparaît douce et rayonnante. Souvent, les Viardot vont rendre visite au peintre, dans sa demeure rue Chaptal, qui n'est autre que l'actuel musée de la vie romantique. Le jardin est somptueux, avec ses treilles, ses glycines, ses rosiers et ses seringas. Face à la maison, Schaeffer a fait bâtir deux ateliers à verrières. L'un lui sert pour le travail, l'autre pour recevoir. Son salon est très couru, et d'une maison à l'autre, on retrouve les mêmes invités. Dans ces salons, certaines personnalités vont agacer. Hector Berlioz, par exemple. Encore lui. Un peu aigri, désagréable, il ne s'entend pas avec tout le monde. Fidèle à lui-même, il n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite pas à s'exprimer dès que quelque chose lui déplaît. Delacroix le trouve insupportable, surtout quand il ose critiquer Pauline. Monsieur Berlioz est un peu misanthrope et, pour éviter tout ennui, Pauline prend l'habitude de lui envoyer en amont la liste des invités. On ne sait jamais. Lors de ces soirées, Pauline chante avec Saint-Saëns au piano, très fière d'accompagner la maîtresse de maison. C'est aussi l'occasion pour ses amis de révéler leurs compositions, et non des moindres. C'est là, chez les Viardot, que seront créés bien plus tard le concerto pour piano de Grieg et le carnaval des animaux de Saint-Saëns. Et, plus proche, en 1860, le deuxième acte de Tristan et Isolde de Wagner. Pauline raconte.
À l'époque, la musique de Wagner m'ennuyait profondément. Je la trouvais assommante, triste et pompeuse. En avril 1859, après un dîner, Saint-Saëns nous avait joué le premier acte de Lohengrin au piano. Cela m'avait semblé épouvantable. Louis et nos amis n'avaient pas été non plus convaincus, bien au contraire. Quelques mois plus tard, j'ai un peu revu mon jugement. Wagner était à Paris, embêté par des problèmes de dette. La belle Maria Kalergis avait dû lui venir en aide et pour la remercier, Wagner lui avait promis une avant-première de son opéra Tristan et Isolde. Du jour au lendemain, nous avons donc organisé une lecture du deuxième acte dans mon salon de la rue de Douai. C'était la première fois que l'œuvre était donnée. Pour l'occasion, Wagner avait fait venir le pianiste Karl Kleinworth de Londres. Le public ne comptait que Madame Kalergis et Berlioz. Je tenais absolument à ce que ce dernier soit présent. J'interprétais Isolde, tandis que Wagner chantait Tristan. Apparemment, Wagner a trouvé que j'avais manqué d'ardeur et chanté à mi-voix. Berlioz a salué la chaleur de sa diction, par contraste avec la mienne.
Thank you.
Pauline Viardot ne peut pas rester en place. Il lui faut constamment de l'activité. Par cet aspect, elle rappelle un peu sa sœur, la Malibran, hyperactive, bouillonnante d'énergie. Clara Schumann, l'une des meilleures amies de Pauline, se souvient de l'un de ses passages rue de Douai. « Je ne me sens jamais tout à fait à l'aise quand je suis avec elle. Il y a toujours une sensation d'agitation. On l'appelle à chaque minute, où elle se rappelle tout à coup qu'elle a une note à écrire. Et ensuite, on s'assoit là pendant des heures, sans avoir eu aucun plaisir d'elle ou des autres. Une vie pareille ne me conviendrait pas. » Clara et Pauline ne sont pas non plus d'accord sur la question des enfants. Pour Clara, c'est une priorité de s'en occuper. Pauline, elle, pense d'abord à sa carrière, mais s'éloigner de ses enfants la fait souffrir. C'est donc à Paris, rue de Douai, que vont naître et grandir deux des filles de Pauline. Quand la petite Claudie, ou Didi pour les intimes, vient au monde, le 21 mai 1852, Louise, l'aînée, a déjà 10 ans passés. Louise n'a pas eu de chance, elle est née au mauvais moment. Avec les tournées européennes, Pauline n'a pas eu beaucoup de temps à lui consacrer, et le regrette.
Toute ma vie, je me suis reprochée de ne pas avoir été plus présente pour Louise. Quand elle est née, j'avais tout juste 20 ans. J'étais au début de ma carrière et j'aimais trop ma vie musicale pour y renoncer. J'ai donc poursuivi les concerts et les tournées partout en Europe, confiant souvent Louise à ma chère George Sand ou à Mamita, et parfois à mes belles-sœurs, même si je ne les ai jamais vraiment portées dans mon cœur. Dès que je le pouvais, je retournais à Nohant ou à Courtavenelle pour passer du temps en famille. Notre séparation me faisait souffrir. Je ne voyais pas Louise grandir. À 6 ans déjà, elle était très intelligente. Elle avait une force de caractère qui me rappelait ma sœur Maria. Mais elle était jalouse, têtue et dure à élever. Personne ne savait comment s'y prendre avec elle. Nous avons dû la mettre en pension jusqu'à ses 13 ans. Je me suis promise de ne jamais refaire la même erreur avec mes autres enfants.
Les malheurs de Louise ne font que débuter. Après Claudie, 2 autres enfants font leur entrée dans la famille Viardot. Marianne, en mars 1854, et Paul, à l'été 1857. Pas de chance, ils sont trop petits pour être des compagnons pour Louise. Et en plus, ils vont attirer toute l'attention de Pauline. Leur image renvoie à la jeune fille ce dont elle avait tant rêvé petite et dont elle a à peine profité. Et dire qu'avant c'était elle la mascotte, à Nohant, où elle émerveillait Georges Sand, Frédéric Chopin et même le chien Pistolet. Ses souvenirs semblent tout à coup bien loin. À l'époque de la naissance de Claudie, une autre fillette va débarquer dans la famille et rendre Louise encore plus jalouse. Il s'agit de la petite Paulinette, la fille de l'écrivain Ivan Tourguenieff. Depuis maintenant plusieurs années, Tourguéniev fait partie de la famille Viardot. Avec Pauline et Louis, ils forment un curieux ménage à trois, mais personne ne s'en indigne. Tourguéniev est fou amoureux de Pauline. Pauline, elle, est plus discrète sur ses sentiments. On ne saura jamais vraiment. Et les biographes s'arrachent encore les cheveux pour éclaircir le mystère. Mais patience, l'histoire entre Pauline et Tourguéniev, nous y reviendrons plus longuement dans un prochain épisode. Heureusement, Louise peut se réfugier dans la musique. Grâce à sa mère, on s'en doute, elle baigne dedans depuis toute petite. Et cela la passionne. À 5 ans, comme elle le raconte, elle était déjà folle de musique. La nuit, pendant son adolescence, Louise s'empêche volontairement de dormir pour étudier la technique du quatuor ou celle de partition. Pas de temps à perdre. Louise participe au Jeudi de la rue de Douai, où elle chante et accompagne les plus grands musiciens de son temps au piano. Parfois, la mère et la fille déchiffrent en quatre mains des partitions que Berlioz leur apporte. Il ne connaît pas le piano et a besoin de leurs conseils. Louise se souvient. « Pauvre petit rien que j'étais alors, combien de fautes de basse n'ai-je pas relevées et eu l'aplomb de signaler au compositeur ?» Précoce, Louise profite aussi des soirées du jeudi pour parfaire ses connaissances musicales. Elle discute avec des sommités de la musique. Meyerbeer, qui lui offrait des chocolats quand elle était petite. Gounod, qu'elle considère comme son ami et conseiller. Ou encore Liszt, qu'elle vénère. Cela ne vous rappelle pas une certaine Pauline Garcia, qui étudiait le piano avec Liszt des années auparavant ? Décidément, telle mère, telle fille. En grandissant, Louise Viardot devient amère, aigrie. Déjà petite, elle était colérique. Giacomo Meyerbeer l'a surnommée Napoléon Louise. Louise semble mal dans sa peau. Physiquement, elle a une allure masculine. Elle a les cheveux très courts et porte des tenues austères. Selon elle, ses parents avaient été déçus à sa naissance, car ils désiraient un garçon. Et voilà qu'elle en devenait un. Rebelle, Louise va mener sa vie de son côté. Mais contre toute attente, elle va marcher dans les pas de sa mère. Elle sera cantatrice et compositrice. Après un mariage raté avec le diplomate Ernest Hérite de la Tour, Louise part enseigner le chant au conservatoire de Saint-Pétersbourg et donner quelques concerts. Mais, de santé fragile, elle perd souvent son souffle et doit bientôt renoncer au chant. Les nouvelles de Louise que Tourguenieff donne au Viardot, plus tard, lors de ses voyages en Russie, ne sont pas bien réjouissantes. Il écrit « C'est toujours la même chose, solitude amère et méprisante. Et l'avenir, je dirais presque volontairement, incertain. Quant à la société, elle l'a prise en grippe, c'est peu dire, en haine farouche. » Heureusement, les compositions de Louise plaisent. Même Liszt se montre enthousiaste. Louise écrit des lieder, des cantates, des opéras comiques et de la musique de chambre, sonates, quatuors. Fidèle à sa famille, elle teinte parfois son œuvre aux couleurs de l'Espagne, comme dans son quatuor en ré majeur. Que ce soit à Courtavenel ou rue de Douai, certains fidèles sont toujours présents autour de Pauline Viardot. Son mari et ses enfants, évidemment, ce brave Ivan Tourguenieff, mais aussi Joaquina Garcia, Mamita, la mère de Pauline. Souvenez-vous, à la mort de sa fille aînée, la diva Maria Malibran, c'est elle, Joaquina Garcia, qui avait décidé de faire de Pauline une chanteuse et non une pianiste, comme celle-ci en rêvait. Depuis, la mère et la fille ne se sont plus quittées. Mamita a accompagné Pauline dans ses premières tournées, en Allemagne, en Autriche, en Italie. Elle a séjourné à Nohant, à Courtavenelle. Elle s'est occupée de ses petits-enfants, ceux de Pauline, ceux de Manuel, mais aussi du fils unique de la Malibran. Mamita est un pilier de la famille. Elle a toujours été là pour soutenir et encourager les siens. Les années passent et Pauline voit sa mère changer.
Ma mère était assez philosophe. Elle a toujours fait preuve de courage face au revers de la vie. Elle était joyeuse et son humeur enjouée prenait le dessus. Mais les dernières années, le visage de ma chère Mamita s'assombrissait. Son sourire, ses yeux, son expression, tout devenait plus triste. La voir ainsi me désolait. Elle avait peur de la mort et des ravages du temps. Elle avait un rapport assez curieux à la religion. Elle n'était pas certaine de croire en Dieu, mais l'idée du diable la préoccupait beaucoup.
En 1863, les Viardot s'exilent en Allemagne, à Baden-Baden, pour fuir l'empire de Napoléon III. Là-bas, ils reconstituent leur salon et la villa des Viardot devient le principal centre intellectuel et musical de la ville thermale. Mais patience, je vous emmènerai plus longuement à Bade dans le prochain épisode. C'est un Paris métamorphosé que les Viardot découvrent à leur retour en 1871. Le baron Haussmann est passé par là, avec ses immeubles aux façades uniformes et ses grands boulevards. Les Viardot s'activent pour remettre leur hôtel particulier de la rue de Douai en état. Il est temps que les soirées du jeudi reprennent. Tourguenieff, lui, a encore une fois suivi la famille Viardot et s'installe au deuxième étage, resté inoccupé. Par un escalier intérieur, il peut rejoindre le reste de la demeure et, en admirateur absolu de Pauline, il va jusqu'à percer un tuyau acoustique entre son bureau et le salon de musique. Comme ça, il peut entendre sa muse chanter, jouer du piano ou donner des cours. Les enfants Viardot, eux, ont bien grandi. Claudie a maintenant 19 ans, Marianne 17 et Paul 14. Après quelques travaux, les cartons d'invitation sont envoyés. Pauline n'en est pas peu fière.
J'étais ravie de relancer le traditionnel salon du jeudi. Mon superbe orgue Cavaillé-Colle, ma plus grande fierté, avait retrouvé sa place. Les fidèles étaient là. Tourguenieff, Saint-Saëns, Flaubert, mais aussi de nouvelles têtes. Édouard Lalot, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Zola, Maupassant, et quelques artistes étrangers comme Rubinstein ou Sarrazate. Les invités arrivaient à 9h30. Les réceptions étaient assez simples. Nous prévoyions seulement du thé et de la brioche. Les événements musicaux reprenaient de plus belle. Nous avions d'excellents solistes, comme le violoniste Joseph Joachim. J'approchais de la soixantaine et ma voix s'affaiblissait. Mon médium n'avait plus l'éclat d'autrefois. En revanche, mes graves et mes aigus avaient conservé leur puissance. Je ne chantais plus sur les grandes scènes lyriques, mais je continuais à donner des concerts, publics ou privés. À cette époque, j'aimais beaucoup chanter « Ich grolle nicht » de Schumann, ce lied convenait encore à ma voix.
Si Pauline n'a plus sa voix d'autrefois, son talent d'interprète est intact. Quelle façon de déclamer, quel sens du geste! Elle ne se produit plus sur les scènes d'opéra, mais donne toujours des concerts. Fidèle à ses goûts, elle chante des leaders, des airs anciens ou encore des mélodies espagnoles. Pauline est douée sur tous les plans et s'amuse même à pasticher Mozart. Selon Saint-Saëns, un jour, pour taquiner son mari et l'un de ses amis, aux goûts musicaux assez rétrogrades, Pauline leur interprète un air inconnu de Mozart qu'elle prétend avoir tout juste découvert. Récitatif, arioso, allegro final, les deux hommes marchent. Mais en réalité, cet air-là, c'est Pauline qui l'a composé, exprès pour l'occasion. J'ai lu cet air, les plus malins s'y seraient trompés, conclut Saint-Saëns. Dans le quartier des Viardot, c'est l'effervescence. on enchaîne les rendez-vous musicaux et mondains. Le lundi, c'est le jour de Saint-Saëns, qui reçoit dans son appartement du faubourg Saint-Honoré. Le mercredi, on va chez Félix et Sarah Lévy, place de la Borde. Et le vendredi, direction boulevard Malesherbes, où le compositeur Édouard Lalot a ses quartiers. Chez les Viardot, il y a aussi les dimanches soirs, réservés à un cercle restreint. L'ambiance est plus légère. On ne fait pas seulement de la musique, mais aussi des jeux de société, souvent des charades. Lors des soirées du jeudi, Pauline met à l'honneur ses enfants, comme elle l'avait fait avec Louise dans les années 1850. Cette fois-ci, c'est au tour de Claudie et de Marianne. Elles chantent en duo et charment l'auditoire. Saint-Saëns leur dédie sa mélodie El Desdichado. Fauré, lui, adapte pour elle sa romance Puisqu'ici bat toute âme et leur écrit une tarentelle. De son côté, le petit Paul Viardot impressionne par ses talents de violoniste. Chez Pauline, on retrouve les amis d'autrefois, Charles Gounod par exemple, avec qui les Viardot s'étaient brouillés, puis réconciliés lors des retrouvailles à Londres en 1870. Gounod habite maintenant près de chez eux, rue de la Rochefoucauld. Mais malheureusement, il y a aussi les absents. Mamita, disparue en 1864, Berlioz en 69. Et George Sand, cette deuxième mère, la fidèle amie depuis 37 ans, qui s'éteint en 1876, quelques années après le retour de Pauline en France. Pauline continue à enseigner l'art du chant en parallèle. Le Conservatoire de Paris lui propose même un poste. Pour l'établissement, c'est tout de même classe d'avoir Pauline Viardot comme professeure, l'une des plus grandes divas du 19e. Mais cela ne va pas durer longtemps. Au bout de 3 ans, Pauline donne sa démission. Ses raisons ? Le conservatoire suit la mode, s'adapte au goût du public, et donc favorise l'opéra comique au détriment du grand style. Et quelle idée d'attribuer aux élèves un nouveau professeur chaque année ? Avec de telles méthodes, comment assurer la continuité de l'enseignement ? Fin du 6e épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, une série de 8 épisodes proposés par Charlotte Landru-Chandès avec la voix de Stéphanie Doustrac dans le rôle de Pauline Viardot. Prise de son, Claude Niort, Fabien Capel, Éric Boissé, mixage Benjamin Vignal, réalisation Lionel Quentin, attaché de production Nelly Portal. D'après les biographies de Patrick Barbier, Michel Friant, Gustave Dulon et Alexandre Zwigilski. Podcast et réécoute sur notre site francemusique.fr. Dans le prochain épisode du Fabuleux Destin de Pauline Viardot, nous ferons un petit retour en arrière. Je vous propose un voyage dans la ville thermale allemande de Bade, où les Viardot vont s'exiler dans les années 60. Entre mondanité et vie de famille, c'est là que vont s'épanouir les talents de compositrice de Pauline et là qu'elle va rencontrer Johannes Brahms.
À réécouter sur francemusique.fr.